Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes encore dans le temps de l'Avent, le quatrième dimanche de l'Avent. Quel est le sens de ce temps de l'Avent, ces quatre semaines avant Noël? Une personne m'a dit que c'est un temps pour vivre une attente joyeuse et que l'accomplissement de cette attente, c'est-à-dire le jour de Noël, est rendu meilleur parce qu'il est précédé de l'attente. Une autre personne m'a dit qu'en y réfléchissant, il est plus facile de comprendre le temps du carême que le temps de l'Avent. Alors partant de cette interrogation légitime, jusqu'à vivre une attente joyeuse et sans oublier tout ce que l'Avent porte de lumière, d'odeur de sapin, de petits gâteaux à préparer et de bougies allumées les unes après les autres, je vous propose de partir dans la lecture de textes bibliques qui peuvent nous parler pendant ce temps particulier de l'année. Nous lisons dans Luc 1, les versets 46 à 55. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté. Comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Le cantique de Marie, ainsi que ce texte est appelé, est dit par Marie, la future mère de Jésus, quand l'ange lui a parlé et qu'elle est arrivée chez sa cousine Élisabeth, avec qui elle va rester quelque temps. C'est un texte pour l'Avent. D'une part, il fait partie des récits qui précèdent la naissance de Jésus, naissance que nous célébrons à Noël. D'autre part, nous y retrouvons des éléments dont j'ai parlé. La joie et l'accomplissement, et un sens de l'attente douloureuse de l'accomplissement final. Une attente qui porte en elle une grande joie et la paix et la justice. Il est question de joie. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Versets 46 à 50, tu peux passer, je vais relire. Marie proclame sa joie. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Le verset 50, la dernière phrase, est une citation du psaume 103, verset 17. Et à l'image de cette citation, nous lisons dans la Bible de nombreux passages qui nous rappellent que Dieu est bon. Et c'est là qu'est notre joie. Cela vaut la peine d'être souligné. Notre Dieu a créé toutes choses. Notre Dieu qui a créé toutes choses, notre Dieu qui nous rachète pour être en relation avec lui et qui nous sauve est un Dieu bon et sa création est bonne. Ce qui me touche, c'est que cette joie n'est pas sortie de nulle part. Elle est fondée sur la bonté de Dieu et sur sa justice, une justice qui renverse les puissants et qui élève les humbles. Le cantique de Marie fait écho à un autre chant de joie et de justice que l'on trouve dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10. C'est celui de Anne qui amène son fils Samuel au temple pour qu'il y serve Dieu. Je lis des extraits. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force, ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain. mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. Le Seigneur appauvrit et il enrichit, il abaisse mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre. La joie est là aussi liée à l'action de Dieu, une action de justice qui délivre l'opprimé. Les prophètes aussi, dans les passages qu'on associe souvent au temps de l'Avent, parlent d'une grande joie. Je lis encore deux passages de consolation et de délivrance qui annoncent une bonne nouvelle aux opprimés. Sophonie 3, versets 14 et 15. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous, il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous, vous n'aurez plus à craindre le malheur. Et Ésaïe 52, verset 9. Éclatez ensemble de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Oui, la joie vient de l'action de Dieu, une action qui s'accomplit vraiment. Tu peux passer. Et donc, il est question d'accomplissement. Je relis les versets 51 à 55 de Luc 1. Dieu a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Dieu a agi avec force et il a fait justice, il a sauvé son peuple. Ces verbes au passé, ces actions présentées comme accomplies, ont un sens très particulier à ce moment de l'histoire de l'humanité où Marie dit son chant. En effet, dans l'histoire de l'humanité racontée par l'Ancien Testament, Dieu a fait une promesse extraordinaire, la promesse que tous les peuples de la terre seront bénis en Abraham. La famille d'Abraham porte avec elle cette promesse, même en passant par l'esclavage, le temps dans le désert, les fautes commises contre Dieu, les exils. L'accomplissement du secours d'Israël et de la réalisation de la justice par un Dieu fort qui remet les choses à leur place, c'était l'attente d'Israël depuis si longtemps. Et les choses se sont précisées à travers les prophètes qu'on lit dans l'Ancien Testament. Nous chantons à Noël à propos de la naissance de Jésus, depuis plus de 4000 ans nous le promettaient les prophètes. L'accomplissement, ou mené à son terme, ou à sa pleine signification, est un thème qui revient dans l'évangile de Luc. Un exemple est quand Jésus lit un passage de Ésaïe et annonce que cette écriture est maintenant accomplie. On le lit dans Luc 4, verset 21. Ou encore sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus explique aux disciples l'interprétation de la loi et des prophètes. Ainsi, beaucoup de textes bibliques, d'annonces et d'attentes du Messie ont déjà leur accomplissement dans la première venue de Jésus. Je lis quelques passages. Le passage dans Ésaïe 61 qui est cité dans Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres et une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ça, c'est le passage que Jésus cite sur lui. Et puis, il y a des passages qui sont compris comme l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Comme Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. » Ésaïe 7, verset 14, qu'on a cité tout à l'heure. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Encore Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller, admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Mais d'autres passages ne sont pas encore accomplis, pas complètement, si nous regardons en face l'état du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, à la suite de Michée 5, les versets 3 et 4, « Et lui, il se dressera, il sera le berger de son peuple par la puissance du Seigneur et par la présence majestueuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est lui qui amènera la paix. Alors nous souhaitons que le nom de Jésus soit reconnu sur toute la terre. Nous souhaitons la sécurité et la paix. Si nous avons parfois la chance de le vivre ponctuellement et à très petite échelle, nous devons bien vivre avec le fait que ce n'est pas vrai partout, pas pour tout le monde. Il y aura encore un accomplissement final, c'est encore à venir. Comment vivre avec cette attente souvent douloureuse? Le cantique de Marie a été dit par Marie juste avant la naissance de notre Sauveur, avant son incarnation. Jésus-Christ est venu habiter parmi nous. Jean 1 nous en parle d'une manière particulière. Dans Jean 1, verset 14, « La parole est devenue chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Alors bien sûr, à Noël, nous fêtons ce moment absolument fondamental et extraordinaire où Dieu est venu sur terre habiter parmi nous, en s'incarnant, pour vraiment vivre avec nous. Et bien sûr, cette incarnation et toute la vie de Jésus sur terre jusqu'à sa résurrection et l'accomplissement de tant de choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Marie le dit comme ça, « Dieu s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, sa bonté en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Cependant, nous qui vivons après, longtemps après cet accomplissement, nous ne sommes pas complètement dans la joie, en tout cas pas moi. Tout au long de l'histoire humaine, après l'événement extraordinaire de Jésus venant habiter parmi nous, notre monde est encore sous l'emprise du péché. Il n'y a pas à regarder loin pour voir partout les marqueurs du péché et du mal. C'est la guerre qui détruit tout, les famines, parfois dues à la météo, mais bien plus souvent liées aux situations géopolitiques. C'est la corruption, la recherche du pouvoir, l'oppression des plus faibles, qu'ils soient pauvres, étrangers, migrants ou exclus et marginaux de toutes sortes. Je pense qu'il est bon de nous souvenir, dans ce temps de l'Avent, que ces choses sont mauvaises et aussi qu'elles prendront fin. Je relis les versets 51 à 53 dans Luc 1. Dieu a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Parce que nous connaissons Dieu, parce qu'il nous a fait nous approcher de lui, nous portons en nous avec Marie l'attente prophétique de la justice et de la restauration de toutes choses. Ces 4 semaines de l'Avent que nous sommes en train de vivre nous rappellent que toute notre vie, au quotidien, nous attendons activement l'accomplissement final, le renouvellement de toute la création. Pour cela, nous sommes invités par Jésus à attendre activement son retour. Jésus nous dit dans Luc 12, verset 37, « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera éveillés. » En théologie, on parle d'eschatologie, un mot qui peut sembler barbare, mais qui signifie simplement les choses de la fin, c'est-à-dire le règne de Dieu. Quand nous proclamons par nos chants et nos lectures communautaires que Jésus est Seigneur, c'est bien de cela dont il s'agit, le règne de Dieu. Le règne de Dieu est déjà parmi nous, comme on le lit dans Luc 17, verset 21, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Nous savons aussi que la réalisation complète de ce royaume est encore à venir, lorsque tout genou fléchira devant Dieu. Je reprends des extraits écrits par Neil Blow dans le livre « Eschatologie et vie quotidienne » pour aller encore un peu plus loin. Il écrit « L'espérance chrétienne n'a pas à se laisser entraîner dans des débats sur les dates et les mécanismes de la victoire finale de Dieu. Elle ne nous laisse pas nous enfermer dans un monde intérieur et spirituel » et elle ne nous laisse pas non plus faire le travail à la place de Dieu pour faire advenir son règne à notre façon. L'espérance chrétienne nous fait regarder vers la terre nouvelle où la justice régnera, tout en concrétisant là où c'est possible les réalités de ce monde à venir. Nous pouvons vivre et lutter pour la justice et le pardon, pour la réconciliation et l'hospitalité. Même si nous ne gagnons pas tout de suite, ici et maintenant, nous pouvons être des artisans de paix et de réconciliation, même si les guerres et les conflits continuent, car nous savons que le mal n'aura pas le dernier mot. Et tout cela est possible à la lumière de Jésus, par le chemin de la croix et de la résurrection. C'est pourquoi l'attente n'est pas seulement joyeuse, et c'est pourquoi les textes de l'Ancien Testament qui nous parlent de la venue de Jésus nous parlent aussi de l'accomplissement final, de l'achèvement du plan de Dieu. Je lis ce verset de Ésaïe 40, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Cette parole de l'Éternel est pour nous. Nous en avons besoin tous les jours jusqu'à la venue de son règne. Lui, tout est accompli et nous sommes aussi dans l'attente finale. Pendant l'Avent, on écoute souvent de la musique. Parmi ces musiques, il y a le Messie de Handel qui reprend une suite de versets. Il parle de lamentation, de promesse, de la gloire de Dieu, de purification, une bonne nouvelle, les ténèbres, et la naissance pour nous d'un enfant. C'est un peu l'histoire express de cette attente, et pour nous aujourd'hui, nous comprenons que nous avons besoin du réconfort et de la consolation que Dieu apporte, parce que dans nos vies quotidiennes, il y a la gloire de Dieu et la bonne nouvelle, et il y a aussi de la souffrance et des ténèbres. Je peux passer le bobinet. Pour finir, je reviens aux bougies, les quatre bougies de l'Avent. L'Avent est aussi, pour nous, ici en Europe, le moment où les jours sont courts, et où nous avons besoin de lumière, au sens physique, mais aussi dans ce sens spirituel, de nous souvenir activement que la lumière est venue, et que la lumière vient encore. Et nous pouvons nous réjouir de cela, vivre pleinement la joie de l'attente qui laisse de la place aux lamentations, légitimes et nécessaires. Et nous pouvons en même temps travailler avec Dieu à la justice et à la paix. Je vous propose une courte prière. Dieu incarné, toi qui tiens tendrement dans ta main toute l'humanité, tu es devenu l'un de nous. Illumine illumine nos cœurs avec la vision de Marie de ta compassion juste, pour que nous soyons doucement poussés à nous joindre à toi dans le travail difficile et saint de faire advenir la paix sur terre. Dans le nom de Jésus. Amen.